Radio Open FM. L'Europe et nous, infos, conseils et actu. Passez à l'heure européenne avec la Maison de l'Europe en Limousin.
Et nouveau rendez-vous, et évidemment avec Jean-Pierre Foultier. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Alors depuis la semaine dernière, c'est de presse écrite que vous avez choisi de nous parler dans ces chroniques culturelles de l'Europe. Après le rappel historique de la dernière chronique, quel sera donc le sujet de celle d'aujourd'hui ?
Je vous propose de faire un état des lieux de la presse écrite dans les différents pays européens. Une presse d'une grande diversité, de la presse quotidienne d'information nationale ou régionale à la presse périodique d'information générale ou de loisirs. Une presse quotidienne notamment qui a dû, depuis une trentaine d'années, répondre aux défis que lui imposaient les nouveaux médias et qui connaît aujourd'hui d'importantes difficultés. C'est un peu de tout cela que je compte vous parler aujourd'hui.
Alors si je m'en réfère à vos petites notes, je vois l'intitulé de la chronique « Prospérité et déclin ». Alors vous nous expliquez tout ça ?
Oui, avec plaisir. La prospérité de la presse européenne, nous en avons parlé un peu la semaine dernière, s'est installée à partir du 19e siècle et s'est consolidée au siècle suivant. Ce sont ainsi des journaux prestigieux, fondés au début du 19e siècle, comme le Figaro en France en 1826, ou même dès la fin du 18e siècle, comme le Times et le Guardian au Royaume-Uni, qui ont donné leur lettre de noblesse au journalisme. Nous verrons que dans ce pays, le Royaume-Uni, dans lequel traditionnellement la presse joue un rôle considérable dans la formation de l'opinion publique, les choses ont un peu changé. L'immédiate après-Deuxième Guerre mondiale, vécue comme un nouveau départ du continent européen, a été riche en création de journaux, comme en France, celle du Monde, en 1944, par Hubert Beuve-Méry. Dans l'Allemagne libérée du nazisme, c'est Die Welt en 1946 et le Frankfurter Allgemeine Zeitung en 1949. En Italie, le vieux Corriere della Sera est totalement refondé en 1945 après avoir été pendant 20 ans un organe du régime fasciste. Un autre grand journal y verra le jour en 1976, la Repubblica. En Espagne, il faudra attendre la fin du franquisme pour qu'une presse libre apparaisse avec El País en 1976 et El Mundo en 1985. Ce sera un peu sur le même principe que de nouveaux journaux vont, dès la fin des années 80, voir le jour dans les pays de l'Est de l'Europe, récemment libérés de la tutelle soviétique. C'est en Pologne la Gazeta Wyborcza d'Adam Michnik qui défend des positions libérales et de centre-gauche. En Hongrie, c'est l'hebdomadaire Magyar Narancs, à l'origine proche des dissidents libéraux du régime. Mais nous aurons l'occasion de reparler de la situation de la presse dans ces pays dans une prochaine chronique.
Mais si je comprends bien, les grands journaux nationaux européens ont toujours une ligne éditoriale plutôt marquée politiquement.
Oui, même s'il reste des médias d'information de qualité qui respectent les principes de la déontologie dont je parlais la semaine dernière. En France, par exemple, on classe traditionnellement le Figaro à droite, le Monde au centre-gauche. En Espagne, El País est aussi de centre-gauche, El Mundo de droite. Chez nos voisins belges, la Libre Belgique est réputée de centre-droit et Le Soir se définit comme progressiste. La même chose peut être observée dans la presse britannique entre par exemple le Guardian de gauche et le Times de droite, à part que là-bas s'est imposée dans les années 90 une presse quotidienne dite People, avec le Sun et le Daily Mail notamment, qui sont de loin les deux journaux les plus vendus en Grande-Bretagne, et l'on sait que leurs positions europhobes outrancières ont participé largement au succès du Brexit. Avec ce type de presse, on s'éloigne beaucoup de cette déontologie, dont un des principes de base est la recherche d'un maximum d'objectivité en matière d'information.
Et donc on parlait de prospérité et déclin. Prospérité, je vois bien, le déclin ?
J'y arrive, avec, si vous le voulez bien, un fait qui a été en France révélateur de la crise qui touche aujourd'hui la presse écrite. Le dépôt de bilan en avril 2020 de la société Presstalis, société alors distributrice de 75% de la presse française et de l'ensemble des quotidiens nationaux, est révélateur, en dehors de ses problèmes de gestion, donc du déclin qui touche depuis un demi-siècle la presse écrite et en particulier la PQN, la presse quotidienne nationale, ceci du fait de la télévision, des chaînes d'information continue, de l'explosion de l'Internet et des médias sociaux. Les jeunes surtout, mais aussi l'ensemble des Français lisent moins qu'avant le journal. les six principaux quotidiens nationaux généralistes ont connu une baisse de 25% ces dernières années. Une baisse aussi, mais moins accentuée sur la PQR, la presse quotidienne régionale. La diminution des chiffres de vente au numéro est partiellement compensée par les consultations en ligne.
Et le constat, est-ce qu'il est le même chez nos voisins européens du coup ?
Si l'on s'en tient à cette presse dite de qualité, oui, mais avec des nuances. En Italie, la diffusion du Corriere della Sera, de la Repubblica, de la Stampa a été presque divisée par 3 depuis 2000. En Espagne, El País, El Mundo et d'autres ont chuté de 65%. Au Royaume-Uni et en Allemagne, la baisse des ventes des grands quotidiens prestigieux est comme en France, autour de 25%. Mais la diffusion de journaux reste encore élevée dans ces deux pays du fait d'une forte tradition de lecture du journal et de la présence depuis longtemps de cette presse populaire, dont les fameux tabloïds anglais, qui n'ont pas d'équivalent chez nous ou dans d'autres pays, même si cette presse quotidienne dite « People » a été fortement percutée par Internet. La diffusion des Daily Mail, Daily Mirror et autres Sun a baissé de 46% depuis 2000 et celle de Bild en Allemagne s'est effondrée de 60%. Nous avons dit combien ces journaux aux mains de puissants entrepreneurs de presse comme Robert Murdoch qui détient le Sun, mais aussi le Times, se soucient moins de déontologie que de leur rentabilité que peuvent leur procurer des titres racoleurs. Une presse qui a été secouée il y a une dizaine d'années par un scandale retentissant sur fond d'écoutes téléphoniques et de pots de vin. Par contre, et pour terminer avec ce bilan, un autre secteur de la presse écrite se porte plutôt bien. C'est celui de la presse magazine, qu'elle soit généraliste comme chez nous, l'Obs, Le Point, l'Express, et surtout thématique ou spécialisée dans le sport, la télévision et bien d'autres sujets. Les journaux n'ont pas disparu donc, mais on peut dire que la presse écrite quotidienne ne domine plus le marché des médias en Europe et qu'elle a entrepris une vraie révolution, du journal papier au journal en ligne.
Une belle évolution, longue évolution, je suppose que cela veut dire qu'il y a encore pas mal de choses à raconter autour de cette presse la semaine prochaine.
Oui, et nous nous demanderons si l'on parle d'Europe dans la presse européenne.
Et la réponse, ce sera dans une semaine, hein. D'ici là, bonne semaine Jean-Pierre.
Bonne semaine à tous.
C'était l'Europe et nous, info, conseils et actu pour construire ensemble la communauté européenne de demain avec la Maison de l'Europe en Limousin, 51 avenue Georges Dumas à Limoges, 05 55 32 47 63 et sur le www.europe-limousin.eu.